soyez les bienvenus avec Leïla Kadourou-Djelli, Daniel Morin, Tom Villa, Jérémy Crédville, Tanguy Passureau sera là tout à l'heure et nos invités Agnès Jaoui et Gilles Leblanc. Ce sera non pas ce mercredi, mais mercredi en 8, le 21 novembre, Les Bonnes Intentions, signé Gilles Legrand, qui en est le réalisateur. Bonjour Gilles.
Hey, bonjour.
Merci de venir à ce micro avec Agnès Jaoui. Bonjour Agnès. Ça
bonjour,
va Agnès
bah, tout le monde.
Ravi, et d'autant que j'ai adoré ces, ces Bonnes Intentions, parce que c'est extrêmement... D'abord, c'est ancré dans la réalité, c'est social, sociétal, c'est très humain, et c'est très drôle, avec un humour noir dont on va reparler dans quelques instants. Mais d'abord, avez-vous ou pas, chers amis autour de cette table, travaillé vos petits dossiers?
Je sais. Une interro là?
Oui, interro. Ouais. Sur Agnès Jaoui. Elle a beau avoir son permis de conduire, ça me fait même penser à des scènes dans, dans Les Bonnes Intentions. Elle ne peut pas conduire une voiture si... Quoi?
S'il y a quelqu'un à côté d'elle.
Si un passager, non.
S'il pleut, s'il neige, c'est les... Non, c'est pas les conditions climatiques.
Si c'est pas une automatique, non.
Si elle est d'une certaine couleur.
Non. S'il n'y a pas de chauffeur.
S'il y a...
Bonne mais non.
Si elle transporte beaucoup de monde. Si elle est seule.
S'il y a un enfant dans la voiture.
Pardon?
Si elle est seule.
Exactement. C'est l'inverse, c'est pas le fait qu'il y ait quelqu'un ou qu'il y ait trop de monde. Vous ne pouvez pas conduire si vous êtes seule dans la voiture.
Ah, vous avez la conduite accompagnée?
Ça serait super. Oui, non, mais c'est vrai. Non, c'est un des drames de ma vie. Je pourrais faire toute une histoire sur la conduite et moi, ou comment me conduire, ou pourquoi je ne sais pas me conduire.
Quelle est la différence d'appréhension entre une personne présente dans la voiture et seule?
Non, en fait, j'ai peur tout le temps, parce que quand il y a des gens, j'ai peur de les tuer. Mais quand je suis seule, j'ai peur de tuer aussi toutes les autres voitures, et je suis paniquée. J'ai un vrai problème. Et en vérité, je peux pas non plus conduire si elle est pas automatique. Enfin, disons très difficilement.
Ah, en plus.
D'accord. Non, mais en fait, je peux pas conduire, quoi. En fait.
Mais vous faites du blabla car, du covoiturage et tout, ou pas?
Non, je cherche...
Et vous voulez pas apprendre tout simplement Agnès à conduire?
Mais j'apprends, et j'apprends régulièrement. Je reprends des cours, c'est pathologique. J'ai eu mon permis il y a 18 ans pour pouvoir être indépendante.
Ça donne une autre dimension encore à toutes les scènes d'auto-école qu'il y a dans les Bonnes Intentions.
Oui, c'était assez compliqué. Et en plus, c'est un jour où il neigeait.
Voilà,
c'était une espèce de bagnole, une vieille bagnole, parce qu'on voulait pas qu'elle ait une bagnole moderne. Elle était automatique. Et on était quand même 7 dedans pour l'ingénieur du son, réalisateur, machin.
Mais tout va bien, tout va bien, tu conduis bien.
Voilà.
Donc quand vous percutez la voiture de devant, ce n'est pas un effet cinématographique.
Bah non, c'était pas écrit, c'est ça vient de l'improvisation.
Ne spoil pas de.
Non, c'est pas très grave.
Ça va.
Quel est le point commun entre Jean-Pierre Jeunet, Zabou Breitman, Patrice Lecomte, Delphine de Vigan, Clovis Cornillac et Gilles Legrand?
Tous réaliser un film.
Agnès Jaoui.
Ils ont été ils ont eu une récompense le même jour, non ?
Tous réaliser un film. Alors, c'est autour du métier, oui, mais...
Ils sont passés par les mêmes écoles, non ?
Non.
Je
répète la liste. Jean-Pierre Jeunet, Zabou Breitman, Patrice Lecomte, Delphine de Vigan, Clovis Cornillac.
Tous français.
Ils ont tous un point commun dans leur situation professionnelle vis-à-vis de Gilles Legrand.
Ils ont tous démarré.
Ils ont tous tourné avec lui.
Ils sont tous millionnaires.
Non.
Ils ont tous fait leur dernier film avec lui.
Non.
Ils ont tous écrasé quelqu'un.
Non.
Ils ont tous tourné ensemble.
C'est professionnel, non.
C'est professionnel.
Ils ont tous co-écrit avec lui.
Non.
Non. Parce que Delphine. Non.
Co-réalisé, co.
Non. Les deux. Avec Delphine, on a fait les deux.
Bah vous avez.
Ils ont tous tourné.
Vous avez écrit, vous avez co-signé. Je sais pas
qu'est-ce qu'on fait.
Ils ont tous travaillé ensemble.
Mais oui, enfin.
Ils ont tous couché ensemble.
Non.
Merci Agnès. Je voulais
Agnès,
pas
on
dire.
Avait dit bonne conduite, on avait dit.
Non, s'ils réalisent pas, s'ils co-écrit pas.
Producteur.
Ah,
produit. Vous les avez produits.
Ah, oui, j'ai ce défaut là aussi.
Ouais. Mais c'est vrai. Non, mais j'aime bien la phrase de Leïla. Je pense jamais à ça. C'est vrai que.
C'est vrai. Il y a pas une thune pour faire un film. Ça peut se faire super tranquille.
Non, mais on se rend pas.
Vous voulez tourner avec moi.
On va faire un truc.
On se rend pas toujours compte du métier entre guillemets, du rôle du producteur. En tout cas, vous avez été leur producteur.
Et oui, avec mon associé Frédéric Brion, avec qui on produit des films depuis 30 ans, mais on se connaît depuis 55, ça fait bizarre. Hein.
Quelle est votre définition du producteur pour vous?
Ah, c'est le producteur, c'est l'initiateur. Enfin, ça peut être un initiateur. Hein, pour moi, je compare souvent ça entre un promoteur immobilier et un architecte, mais en essayant de... voilà, un promoteur pas véreux, voilà.
Et pourquoi on a l'image de l'argent de celui
ouais, c'était
qui...
il y a longtemps ça, c'est quand il y avait de l'argent.
C'était à l'époque.
Ouais, avant.
Quel projet d'adaptation grand public Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri avaient-ils commencé à écrire puis abandonné?
La Bible.
Astérix.
Exactement. Exactement.
Bravo, Tom, là, c'est pas la même chose. Là, je suis bouche
voilà. La Bible et Astérix, non, c'est pas la même chose. Alors, c'était dans quelle période? Parce qu'il y a eu plusieurs périodes d'adaptation d'Astérix. Avant Chabat, après Chabat.
Ah bah non, c'était après. Non, c'était récemment, enfin relativement récemment. D'accord. Mais et ça aurait été super. On a un super scénario avec.
Mais.
Il y a un mais.
Un Astérix féministe. Bah mais ça s'est pas fait.
Et pourquoi? Oui, non, mais pourquoi?
Il y a bien de raison.
Ouais.
C'est des raisons de production.
Faut demander à Gilles. Faut demander à Gilles.
Tu m'aimes pas?
Ah, mais c'est des questions de droit.
Bon, on change le nom, on l'appelle Astérix.
C'est vrai.
Joe Magouille. Bienvenue chez Joe Magouille.
Ouais, ça devient un petit brun et un grand maigre.
Non,
et puis
une
voilà.
Femme.
Voilà.
Donc, c'est-à-dire qu'il il faut demander l'autorisation aux ayants droit, aux héritiers, aux familles, à Uderzo, à Nocini, c'est ça?
À Zep.
Il faut que tout le monde soit d'accord, et ça n'a pas été le cas.
Jules.
C'est hyper compliqué, et je sais pas tout.
Et alors, pardon, c'est hyper compliqué.
Et je vous y
c'est
réponds.
C'est ça, surtout.
Il y a un truc.
La question, c'est que vous avez commencé à travailler sans avoir l'autorisation, c'est-à-dire pour leur proposer.
Non, non, on l'avait.
L'autorisation.
C'était avec Jamel Debbouze à la réalisation, et on croyait l'avoir.
D'accord. Et ah. ça ne se fera donc jamais, jamais, jamais.
Mais c'est très compliqué le dossier Astérix.
Ouais, il y a
plusieurs producteurs, il y a des gens qui comptent. C'est assez difficile.
D'accord. C'est une véritable marque, quoi. Et donc, il y a plusieurs se partagent la propriété de cette marque.
C'est pas simple.
Compétition très célèbre, Gilles Legrand a-t-il faite 5 fois?
C'est de la voile?
Les Jeux Olympiques.
Non.
Il a réalisé.
C'est
j'ai
bien 24 heures du Mans.
La tête des
Jeux. Voiture, le Dakar.
Exactement, le Dakar.
Allez, ouf, ah oui. C'est ma journée, je suis chaud.
C'est faux. Apparemment, vu la tête, c'est faux.
Si, non. En 1988, avec un copain, nous avons couru le Paris-Dakar en moto, mais ça a été un désastre.
Bah, vous l'avez fait une fois à moto comme concurrent et 4 fois voiture.
Et avec ce même copain, on était ouvreur.
Je ne faisais pas trop
la course qui nous branchait, c'était se balader dans le désert.
Donc vous avez quand même fait Paris-Dakar.
Ah oui, on l'a fait, oui, mais même...
Quand ça démarrait de Paris et ça arrivait à Dakar?
Ça dépend. Quelquefois, ça a été en Afrique du Sud, une autre fois, ça a été, je sais pas, au Congo, une autre fois, enfin... Ouais.
Et c'est vraiment magique, parce que c'est très.
Moi, j'aime le désert, mais.
C'est très décrit.
Disons que maintenant, je suis un peu moins branché par ce truc-là, mais à l'époque, j'avais 25 ans et ça m'amusait
Tu n'avais pas de conscience politique.
J'attendais Agnès sur la question.
je sais que j'aurais. Mais qui vous a filé cette info, là?
Je rappelle qu'il a quand même réalisé Bonnes Intentions où il y a beaucoup, beaucoup de conscience politique, justement.
Je suis en train de me racheter. Mais...
Très bien. Pour la dernière représentation de Cuisine et Dépendance, les acteurs n'ont pas eu de fou rire, n'ont pas eu de pleurs, mais d'après Agnès Jaoui, ils ont eu des.
Des trous de mémoire.
Pas de fou rire, pas de pleurs. Mais
pas
ils
de
ont
fou
eu...
rire, pas de pleurs.
Des
hoquets.
Non.
Des vomissements.
Non.
Des trous?
Non. Pas de fou rire, pas de pleurs, mais.
Mais des rires?
Des fous pleurs.
Exactement.
Des fous pleurs.
Ah, des fous pleurs, d'accord.
C'est vrai? Oui, c'est vrai. On n'arrivait pas à terminer. On l'avait joué 465 fois. Et pour chacun, c'était une expérience assez incroyable. Et à un moment, Sam Carman prête de l'argent à Daroussin. Il lui dit « Regarde-moi bien, c'est la dernière fois. » Et Daroussin, au lieu de répondre le texte qui était « D'accord, c'est la dernière fois », il a répondu « Rien. » Et ça nous a fait un écho. Et après, on n'arrivait plus à comme ça, et le public était comprenait rien ce qui se passait.
Mais fou pleur, mais j'adore l'expression fou pleur.
Bah oui, on n'arrivait pas à s'empêcher de pleurer.
Pleur que l'on ne retient pas, oui. comme
et c'était communicatif.
Et qui est en décalage par rapport au sentiment, parce que c'est vrai que le fou rire peut être dans une situation de gêne. On peut avoir un fou rire dans une cérémonie funéraire, alors qu'il ne faut pas.
Tout le temps.
Il n'y a rien de meilleur.
Pour ça, je vais aux cérémonies funéraires.
C'est ça, là, spécialement.
Hier, on s'est bien marré.
Gilles Legrand, enfin, à l'origine, ne voulait pas être réalisateur ou producteur de cinéma, ni pilote de Paris-Dakar ou de rallye. Que voulait-il faire comme métier?
Agriculteur. Astérix.
Alors, on n'est pas loin.
Il voulait élever des brebis.
On n'est pas loin.
Agriculteur, berger,
garde forestier.
Alors on n'est pas loin.
Douanier,
ramasseur de champignons,
bandit,
ostéopathe,
agriculteur,
non,
pêcheur,
ostréiculteur,
non.
Garde champêtre.
Non, non, ah, c'est fini, bah, oui.
Quand je Gilles,
à mi-chemin entre éleveur et garde champêtre ou garde forestier.
Vous voulez mouton, mouton.
Je ne vous filerai pas mon chien, moi, c'est
un vétérinaire.
Exactement.
Merci, oui, ça va.
Il y a eu un petit indice.
Et alors, je participe. T'as vu comme ils sont?
Vétérinaire à 18 ans, et c'était un échec, c'est-à-dire les études étaient trop difficiles.
Il y a eu un concours de circonstances assez négatif. D'abord, je me suis fait virer de chez moi à 18 ans, donc pour faire des études, c'était pas simple. Et puis, à l'époque, il fallait, pour rentrer en préparation, fallait avoir un avis favorable de l'ensemble de ses professeurs. Et le professeur de philo ne me connaissait pas. Il y a eu un problème.
Il faut l'avis du prof de philo pour rentrer dans.
Il faut un avis du prof de philo pour devenir vétérinaire. Mais j'ai commencé.
Enfin, pour remplir le dossier, il fallait.
Là, il fallait un avis favorable. Ouais, voilà. Donc ça a foiré. Donc j'ai essayé vaguement de faire de la bio, mais ça n'a pas très bien marché non plus. Mais mon premier métier dans le cinéma.
Vient par le monde des animaux, justement.
Ouais,
vous occupiez des bêtes sur un tournage.
Voilà, c'était sur un film qui s'appelait Les Misérables. Et l'accessoiriste était anglais, il avait une sainte peur des rats, et on recevait des rats de laboratoire blancs, il fallait les mettre dans les égouts, des rats de laboratoire gris. Donc mon premier boulot, c'était de peindre des rats.
Colorier
des rats. Et ben, comme quoi, on peut...
Ça s'appelle colorama, d'ailleurs.
Voilà, absolument.
Et vous... Petit coup de cymbale.
Un petit coup de cymbale.
Ouais. Merci. C'est pas volé, ouais.
Passion pour les chevaux également, mais aussi sur des tournages, parce que les chevaux sont très présents dans beaucoup de films.
J'aime les chevaux, je vis avec des chevaux. Enfin, une famille
aussi. C'est pas
sympa
aussi. Pour ta femme.
C'est un... Oui, oui, absolument. Non, mais...
Alors, parlons de ces bonnes intentions. Ce très bon film qui sortira le 21 novembre prochain, co-signé avec Léonore Confino, qui joue également, puisqu'elle est la dame de la préfecture. C'est ça, c'est la blonde très...
C'est une. Oui, c'est très comment la blonde elle est.
Non, dans son personnage. Quoi,
non, elle est formidable. Mais d'abord, Léonore est une fille formidable.
Le personnage n'est pas top.
Que nous connaissons tous les deux, c'est un lien entre Agnès et moi. Mmh. Et quand on a eu cette idée de faire ce film avec mon associé, on est allé au théâtre voir une pièce qui s'appelait. Comment s'appelait la pièce ?
C'est pas Ring ou Les Uns sur les Autres
non,
ou
non,
Le
non,
Poisson
non,
Belge.
Le Poisson Belge, voilà. Le
Parce
Poisson
que c'est
Belge.
Une grande auteure de théâtre.
Voilà,
Le Poisson Belge avec Marc Lavoine, oui, que nous avions reçu dans cette émission pour en parler d'ailleurs.
On était bluffé
super écriture.
Ouais. Ouais, on était bluffé par son écriture et on lui a raconté cette envie de faire ce film sur les gens qui s'investissent. Et elle nous a pondu un scénario. Moi, je savais même pas si c'était le film que je voulais réaliser. En fait, c'est plus comme producteur. Là,
C'est la plume qui vous a tiré avant le sujet.
Ouais, absolument.
Pourtant, le sujet est extrêmement fort et vous va extrêmement bien, Agnès, puisque c'est le sujet. Non, c'est le sujet d'une personne extrêmement humaine qui peut par dévotion et s'occuper des plus faibles peut passer à côté de sa vie et de sa famille.
Oui, c'est le reproche qui lui est fait. Moi, je pense que ce reproche n'est pas justifié.
Elle est encore dans son personnage. Merci.
Mais voilà. Je voulais dire justement aussi que Léonore Confino, elle a écrit une pièce qui se joue en ce moment au Tristan Bernard qui s'appelle Parlons d'autre chose, mise en scène par Catherine Chaube, qui est son alter ego, enfin, en mise en scène, et c'est super. Donc, je vous encourage à aller le voir.
Très bien. Tristan Bernard à Paris. Donc, revenons. Alors, si ce n'est pas l'histoire de cette femme qui consacre la majeure partie de son temps, d'ailleurs, les premières scènes, on comprend très bien dans les deux premières minutes du film, elle va donner des vêtements pour aider des migrants ou en tout cas des personnes qui ont besoin de vêtements dans un premier temps, puis après elle va visiter
un camp.
C'est des
centres qui existent.
Elle va chez Emmaüs, amène ses fringues. Voilà.
Elle amène ses fringues, puis ensuite elle apporte ses fringues. On repère bien une robe bleue qui est donnée parmi tous ses vêtements, puis ensuite elle va visiter un camp de migrants pour distribuer des prospectus et expliquer qu'elle est professeure de français, que les cours sont gratuits et les encourager à apprendre la langue. Elle rentre chez elle dans un appartement bourgeois, cossu, avec sa fille qui est enfermée dans sa chambre et qui ne trouve pas une robe bleue et une robe de marque en plus. Et là, on comprend qu'elle est carrément allée prendre des fringues dans le
vestiaire de sa fille.
C'est ça.
Mais on a tellement de fringues aujourd'hui.
Non, mais c'est pas le propos.
Et juste après, son mari dit aux enfants, planquez le gâteau parce qu'il va finir à la soupe populaire. Hein, donc oui, elle est un peu surinvestie.
Et là, on comprend exactement dans quel monde on est. Après, il y a évidemment beaucoup de rebondissements. Et et la comédie, y compris d'ailleurs dans les situations les plus dramatiques. Je pense à la scène à l'hôpital où vous êtes avec votre grand-mère et on est plutôt au bord des larmes et on finit dans un fou rire tel, mais qui est pas nerveux, mais qui est pas loin d'être nerveux, tellement on ne s'attend pas à rire à ce moment-là. Ouais. Là, on va pas dévoiler ce qui se passe, vous avez qu'à voir le film, vous rirez. Mais alors, comment vous la définiriez, cette personne, si c'est pas quelqu'un qui met en balance sa vie personnelle et sa dévotion?
Je sais pas comment dire, c'est quelqu'un qui effectivement qui a des valeurs, qui a besoin d'être dans la réparation, de s'engager, de donner, autrement je pense qu'elle se sent pas tellement exister.
Qui a rencontré son mari comme ça d'ailleurs aussi.
Exactement.
Avec des opérations humanitaires.
Voilà, et puis
mais qui lui s'est embourgeoisé pour elle.
Ouais. En tout cas, apparemment, il a un petit peu perdu
la mémoire.
La mémoire, exactement. Mais ça parle de ça aussi, ça parle de l'engagement, de pourquoi on s'engage, et puis aussi des contradictions, enfin du fait que, je sais pas, Mère Teresa, peut-être qu'elle était très merdique dans sa vie, ou l'abbé Pierre avait peut-être des côtés minables, enfin voilà, le fait qu'on
peut-être,
est
tout ça, c'est
peut-être. Peut-être.
Hein, on n'a pas de documents,
on coupera le peutret.
J'ai entendu dire que c'était un fumier, moi.
Gilles Legrand est très gêné, très gêné parce que
mais ce qui est intéressant avec votre personnage, c'est que nous on est au quotidien, on peut se faire ce reproche là, on est rempli de contradictions, c'est-à-dire que à la fois on a envie d'aider et en même temps, on se reproche de ne pas faire le quart de ce qu'on devrait faire. Votre personnage, pour le coup, il est complètement investi et cohérent avec ses idées. C'est-à-dire que sa pensée est assortie de gestes directement. Et c'est pour ça que, à la limite, on est un peu dur.
Ce ne sont pas que des propos, c'est des actes.
C'est des actes. Ouais. Et on est un peu dur avec la figure du mari parce que, oui, certes, il a connu un passé plus difficile, mais aujourd'hui, il vit finalement comme chacun d'entre nous. C'est-à-dire que les idées sont là, mais les actions parfois peinent à suivre. Mmh. Et du coup, votre personnage est très attachant, complètement parfois irréaliste, et en même temps, on s'y reconnaît parce qu'on est, mu aussi par ça au quotidien.
Propos que l'on entend souvent quand on signe une pétition en disant faites attention, les migrants, acceptons les migrants sur notre territoire, tous les haineux sur Internet répondent, eh ben, t'as qu'à les accueillir chez toi, puisque t'es si malin, c'est ce qu'elle fait.
Voilà.
Et ça donne des situations extrêmement cocasses.
À peu près,
et drôles.
Mais c'est pas, non, parce que on n'est pas spécialement migrants dans le dossier. Là. On est surtout étrangers.
En difficulté.
Et dans les étrangers, il y a évidemment ceux qui arrivent, les migrants, mais il y a des tas de gens qui, puisqu'elle est prof d'alphabétisation, donc elle donne des cours, et dans des cours d'alphabétisation, vous avez aussi bien une Norvégienne, qu'une Française analphabète, qu'une
Bulgare jouée par Guédret.
Une Bulgare jouée par Guédret. Non, donc, on n'est pas, le film ne traite pas spécialement des migrants.
Non, alors, il y a plusieurs intrigues, il y a aussi l'espèce de concurrence qui arrive, avec une deuxième enseignante dans ce centre d'alphabétisation.
Souvent dans les associations humanitaires ou caritatives, il peut y avoir de la concurrence entre c'est un peu comme dans toutes les boîtes, parce que de toute manière.
Alors qu'on est dans le bénévolat, justement, et qu'elle n'est pas payée, qu'il n'y a pas, à être concurrent parce que c'est pas tu vas me piquer des étudiants, je vais gagner moins d'argent. C'est simplement une question de regard des autres.
Mais les associations entre elles se tirent la bourre parce que chacun veut essayer de faire le mieux. Mais
Oui, et puis encore une fois, ce sont des êtres humains. Donc, sans parler d'associations, moi en tant que personne, tout d'un coup, je suis jalouse effectivement du succès.
Odieuse, vous
pas
êtes.
Très sympathique, effectivement, parce que
encore
quelqu'un qui semble le plus aimé et qui a plus de succès.
Et de reconnaissance.
C'est-à-dire que dans le film, on l'a quand même bien chargé de défauts au début. Il fallait bien qu'elle en ait quelques-uns au début. Et on a pris une autre Allemande qui, a priori, sur le papier, a zéro défaut, a priori.
Elle a une famille. Elle est jouée par Claire Sermon. Il y a également Alban Ivanov, justement, moniteur d'auto-école, qui est à pleurer de rire et qui est très intéressé par Guidré. Il y a Tim Seffi, Michel Moretti, Philippe Doreton, en guest, j'ai envie de dire, puisque elle propose également, dans le cadre de l'alphabétisation, de sortir sa classe, de l'emmener au théâtre, à la Comédie Française, rien que ça, pour voir justement Cyrano de Bergerac. Éric Veillard, Marie-Julie Beaupe. Je ne suis pas comédien, je vous précise. Marie-Julie Beaupe, Didier Bénureau. Il a pas beaucoup de textes, mais
c'était le principe du personnage. C'est un personnage qui dit rien. Bon, c'est pas terrible à la radio, mais c'est glaçant quand vous avez un directeur qui répond. qui dit rien, jamais, qui vous regarde simplement.
Martine Schönbacher, Chantal Yam, Roméo Ustiak guideraient donc, je l'ai dit, dans le rôle de Miroslava, la Bulgare qui apprend le français, Salia Bala qui est formidable, Nuno Roque qui est un Brésilien en maillot de foot et on se demande lui qu'est-ce qu'il, comment il perçoit les choses.
On était obligé de faire un dessin animé dans le film pour voir ce qu'il y avait dans son cerveau. Ouais.
Exactement.
C'est un truc un peu compliqué.
Exactement. Bas Dem, je crois qu'on avait vu avec Omar Sy récemment dans un film où il jouait le rôle de son papa. Ouais. Lucie Riane, Théo Gross, Jenny Bellé, Tatiana Rojo, Daria Pachenko, entre autres dans ce film qui a été difficile à monter entre guillemets, parce que c'est un film qui pourrait passer pour politique, mais ça reste une comédie.
Non, c'est ce qui est drôle, c'est que on était nous persuadés avec Léonore quand on a une fois que le scénario était terminé, qu'on tenait quelque chose de une petite bombe quoi. Et on s'est rendu compte que chez les lecteurs, c'était perçu d'une manière... Peut-être qu'ils avaient l'impression qu'on faisait un film raciste, alors que je crois que c'était le contraire, le propos...
Totalement.
Mais non, mais comme vous essayez de faire écrire des dialogues de personnages...
Il y a des vannes racistes dedans. Il y a notamment, d'ailleurs, une discussion dès le début avec qu'est-ce qui est raciste, qu'est-ce qui n'est pas raciste.
Il y a des vannes racistes. On décode, on démine des blagues racistes, enfin des stéréotypes.
La frontière entre le cliché et la tradition.
Peur en disant il y a des blagues racistes.
Il y en a.
Si elles sont racistes.
Si elles sont sorties.
C'est ça que j'aime.
Si elles sont sorties de leur contexte, oui. Elles le sont.
Oui. Évidemment. Non, mais c'était. Oui. Et ça, c'est marrant parce que de temps en temps, les partenaires ou même les acteurs peuvent être un peu perturbés parce que les dialogues. Pouvait prêter un peu à confusion, mais bon, évidemment, c'est un scénario, c'est un squelette. Hein, alors,
Non, mais quand le moniteur d'auto-école appelle l'un des personnages voleur de poules, il est deux secondes après, il dit je vais pas dormir avec un voleur de poules. Deux secondes après, il dit bah évidemment, mais sous-entendu, voilà, il y a cette espèce de racisme quotidien qui peut être
aussi
dangereux.
On joue avec un peu ces clichés-là.
Exactement,
ouais,
exactement.
Mais, évidemment, j'espère que ça sera compris dans le bon sens.
Non, je vous confirme
ça. Je me fais fusiller par Agnès immédiatement.
Comme j'ai un film en partant. Partenariat avec Valeurs Actuelles, donc il y a aucun problème.
Tom Villa, ses bonnes intentions. Le film sort le 21 novembre, je le rappelle. Ouais. C'est un succès garanti.
Ça va être un carton. Un carton pour une seule et bonne raison. Un film qui montre qu'une femme qui veut faire le bien peut aussi faire du mal par ricochet. Et ça va faire plaisir à tous les gens qui détestent France Inter. Et ça fait du monde. Ça, c'est vrai. France Inter qui prône à longueur de journée le vivre ensemble, qu'il faut être tolérant, que l'écologie c'est important, que les animaux faut pas les tuer. Et gna 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 gna. Du miel d'amour et de bon sens qui dégouline sur des crêpes au sarrasin. Et ça va bien faire germer la droite. Mais ils ont raison. C'est vrai que c'est tellement facile d'être de gauche quand on a de l'argent. Quand t'es de gauche, t'es pour la redistribution, le partage, la solidarité, sauf que c'est facile de donner de l'argent quand t'en as plein, il t'en reste toujours. Après, j'ai un exemple de fumeur, ça a bien parlé à tout le monde, ça fait toujours chier un fumeur donner sa dernière clope. C'est pas méchant, c'est juste qu'après il en a plus pour fumer. Alors que quand t'as un paquet plein, tu peux en donner deux, trois, tu t'en fous complètement, et bah avec l'argent c'est exactement pareil. Puis si t'es riche, t'as du temps pour des œuvres caritatives, regardez par exemple les Restos du Cœur. Quand t'es pauvre, bah t'y vas pour y manger, quand t'es riche, t'y vas pour y chanter. Tu vois, c'est pas pareil. Votre personnage, Agnès, il est formidable. Elle passe sa journée à faire le bien autour d'elle. Elle donne des cours de français dans une association. Elle distribue des médicaments sur les camps de réfugiés. Elle donne des sacs de vêtements à la Croix-Rouge ou à Emmaüs. C'est génial. Mais elle vit comment, cette femme ? Elle bosse pas ? Enfin, je veux dire, elle a pas un salaire. Elle paye même pas son appart. Il appartient à sa mère. Nous tous, autour de cette table, on est des privilégiés. Grosso modo, notre travail à tous autant qu'on est, c'est de divertir les gens, de les faire rire ou de les informer. Mais c'est vrai qu'on est des nantis, on en croque. On est des putains de privilégiés. Regardez, samedi, j'étais enregistré une émission qui s'appelle Top Gear. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une émission sur les voitures de sport pour montrer aux gens qui n'ont pas les moyens d'en acheter une que c'est vachement bien de faire le tour du Pérou en Lamborghini. Bref.
Invité par Philippe Lelouch.
Exactement. Après le tournage, on est sur le parking avec toutes les voitures. Je demande s'il peut me prêter 5 minutes l'Aston Martin pour essayer. J'ai fait 3 tours de circuit avec. Je vous le dis, je suis un petit enculé.
Rêve de gamin.
Je suis un enculé. Ouais. J'ai fait 3 tours gratos, alors que le mec lambda, il doit acheter une Smartbox, 90€. Et après, s'il veut acheter la photo de lui dans la bagnole pour l'accrocher sur son frigo, c'est 15€. On est des privilégiés. Il y a 15 jours, Tanguy Pastureau, il fait une chronique pour dire que le plastique, c'est pas bien. Nagui en rajoute une couche pour dire qu'on va arrêter avec les petites bouteilles d'eau dans l'émission. Et qu'est-ce qui se passe? 3 jours après,
il y a la marque Quetch qui nous offre à tous des gourdes en métal avec nos prénoms gravés dessus. Bon, là, j'ai celle de Daniel, parce que l'eau, lui, il s'en sert pas trop. elle est à vendre, d'ailleurs. Non, mais voilà. Il y a cette marque qui nous offre des gourdes et on est des privilégiés.
Pour dire, vous n'avez qu'à remplir à l'eau du robinet
et arrêter le plastique.
De jeter le plastique.
Mais quand ma mère, elle va chez Carrefour et qu'elle dit qu'elle va arrêter les bouteilles d'eau, t'as pas le directeur du magasin qui court lui offrir une carafe Brita. Donc, vu que j'ai l'impression qu'on est un tout petit peu plus de poids que ma maman, vu qu'on est le service public et que même si on est des privilégiés, on a un cœur, si parmi les gens qui nous écoutent, il y a des entreprises qui veulent faire du bien aux autres, envoyez-nous vos trucs, on va forcément se démerder pour trouver une association que ça aidera grandement. Nous, on vous fera un petit coup de com', comme là on a fait pour la marque Quetch qui nous a offert les gourdes. Vous emmerdez pas avec la bouffe parce qu'il y a les Restos du Cœur et c'est formidable. Donnez-leur directement.
Tu vas citer Quetch tout le...
Mais non, mais c'est pour inciter les entreprises justement à qu'elles nous donnent et comme ça après on fait un coup de com'.
Recite Aston Martin.
Non mais là il commence à faire froid, donc voilà, s'il y a des entreprises qui veulent donner des trucs, si vous avez des trucs chauds et imperméables, je vous donne l'adresse, la bande originale, Maison de la Radio, 116 avenue du Président Kennedy, Paris 16e, et après nous on les redonne à des associations. On a aussi des bonnes intentions.
La bande originale, Nagui sur France Inter.
C'est votre cinquième long métrage, Gilles Legrand, ses bonnes intentions, à part vous racheter donc l'image du voyou qui allait avec son 4x4 traverser le désert
écraser 2-3 gazelles.
Et faire peur. De l'année 1988, vous aviez quel âge?
J'étais pas né, moi, en 88.
Oui, voilà. Mais regarde Pétain.
Non mais Pétain, il l'a fait à l'inverse. Je crois qu'il était bien en 14 et il a merdé en...
C'est vrai, mais quand même, ça fait partie de ta vie.
Pétain a fait le Dakar.
Est-ce que comment vous avez travaillé votre personnage, Agnès? Vous avez dit dans une interview que vous êtes allé voir des amis qui étaient justement bénévoles et qui notamment accueillaient des ou initiaient ou apprenaient le français à des étrangers.
Oui, je suis un peu allé voir dans des assos et puis effectivement je connais des gens qui sont
dont
bien,
métier,
vraiment. Non, et qui sont bénévoles, je sais que Sarah Succo, par exemple, qui est comédienne, à ses heures perdues, elle va donner des cours, donc j'ai des amis vachement bien. Et autrement, rien.
le cadre familial qui explose comme ça en plein vol, parce que elle a des soucis cette maman, que ce soit avec son mari, avec ses enfants, ses adolescents qu'elle présente comme étant adultes mais qui ont 12 et 14 ans.
Oui, 14 et 16 ans.
Pardon.
Disons qu'elle s'occupe un peu plus des autres que de sa famille, parce qu'elle considère que sa famille va bien. Elle dit un truc très important dans le film, une phrase, on dévoile rien du tout.
Vous n'avez plus besoin de...
Non, elle dit, mais parce que sa fille lui reproche, elle lui dit qu'il manque un peu d'une mère, et Agnès, enfin le personnage
d'Isabelle... C'est quoi la définition d'une mère?
Ouais, c'est quoi une mère pour toi? Et Agnès lui dit, mais une mère, c'est quelqu'un qui donne l'exemple. Mmh. Et c'est... moi je tiens ça de ma femme. Donc non, mais c'est magnifique.
Pardon.
Moi j'ai une femme qui est très investie dans beaucoup de choses et je vois bien sur les enfants ça provoque des choses quoi. Et c'est bien qu'une mère soit un exemple. C'est...
Oui, pourquoi pas, un
bon exemple.
Féminisons
tout. Alban Ivanov est juste dingue, hein, en moniteur d'auto-école. C'est une espèce de pouvoir comique de
génère
à la Coluche.
Essayez de ne pas prendre des cours avec lui, parce que ça va être un désastre.
Ouais, de conduite.
Oui,
de comédie peut-être.
Ah ouais, non, mais c'est une merveille.
Il est très fort. Voici l'humeur de Jérémy. Avec sa gourde marquée Jérémy.
Ouais, voilà. Bonjour à tous ceux qui n'aiment pas Trump et qui ont été très touchés par les commémorations du centenaire de 14-18. Et bonjour Nagui.
Salaud.
On nous le ravage depuis des semaines sur Facebook. Hein. Facebook, c'est le nouveau copain d'avant pour les anciens. Il y a cette date du 17 novembre qui arrive. Tout le monde est au courant. Le 17 novembre. C'est, ma plus grosse date de tournée au Splendid à Lille.
Non.
Moi, en tout cas, je le rabâche sur Facebook. Ce jour-là, ça va être une date très sécurisée. Hein, puisque toutes les routes seront bloquées. Il y aura les stations essence et des supermarchés gelés, des péages obturés, etc. J'en ai vraiment de la chance, on n'a jamais vu ça pour une date. Prends ça dans la gueule, Ian Farmer. Bon, paraît que tous ces blocages sont liés à la hausse du prix du carburant. C'est quand même ridicule de bloquer des villes, alors que c'est en campagne que les gens vont être le plus touchés par cette hausse du carburant. C'est vrai. Si tu trouves l'essence trop chère en ville, bah tu peux toujours trouver un moyen d'aller bosser. Voilà. Si tu prends le métro et que t'es en campagne, bah c'est que t'es pas en campagne. C'est vrai. Je veux dire, si t'es vraiment obligé à Paris de prendre ta voiture pour travailler, c'est que ton travail, c'est chauffeur. Moi, je pense que le 17 novembre, on devrait tous aller manifester en campagne. Voilà, la campagne, c'est sympa. Il y a la tombe d'Émile Louis, il y a de la verdure et du pâté. Voilà, c'est plus cool. Et puis, au moins, les routes seront dégagées et puis moi, je pourrais faire ma date tranquille. Voilà, mon intérêt personnel passe avant l'intérêt collectif.
Évidemment.
Mais ça, c'est humain. Je veux dire, quand il y a un accident de personne sur la voie de votre train, vous dites toujours, putain, l'enculé, il aurait pu se suicider ailleurs. Voilà. Non, c'est vrai. Non, mais il n'y a pas une minute de silence pour les suicidés du rail. Voilà. Il y a une heure et demie de, oh, hey, je vais rater mon avion. Voilà. Nous, on râle. On aime bien râler. C'est pour ça qu'on manifeste en se manifestant. D'ailleurs, au passage, les gens qui manifestent se manifestent, mais les gens qui se manifestent ne manifestent pas forcément.
C'est vrai.
Donc voilà, par exemple, il y a des esprits qui se manifestent, ils manifestent pas. Bon. C'est, non, mais c'est typiquement une manifestation qui n'existera pas. Des esprits qui se manifestent. Il y a des manifestations qui ne peuvent pas exister.
Okay. Absolument.
Okay. Par exemple.
je suis totalement avec toi.
Il y a des manifestations impossibles.
Par exemple. Regarde, là, je me manifeste, mais je vais pas faire de manifestation.
Non, mais par exemple, une manifestation contre des gens qui râlent en marchant, ça n'existera pas, puisque râler en marchant, c'est manifester. Il y a des manifestations que j'aimerais bien voir. Par exemple, des manifestations où on est content. Il n'y a pas de manifestation de gens contents, on manifeste toujours contre. Si par exemple, demain, l'essence passait en dessous des 1 euro, il n'y aurait personne dans la rue pour dire « Merci, merci, on est content !» L'essence moins chère, c'est super. Slogan à jeu de mots. Non, ça n'existera pas. Il y a plein de manifestations comme ça. T'imagines, dans ce genre de manifestation, il n'y aurait pas de casseurs, il y aurait des constructeurs. Les mecs, ils seraient avec leurs cagoules et ils construiraient des arrêts de bus. Ce serait génial. Non, moi, je trouve que les manifestations, c'est toujours pareil. Par exemple, à Paris, on emprunte toujours le même chemin. Bastille, République. C'est chiant. On aurait changé un petit peu, voilà, comme ça, on ira ailleurs dans Paris, on bloquerait d'autres endroits. Les gens de Rive Gauche, ils n'ont jamais vu une manif. Ils entendent des cris de l'enfant. Ah, chérie, les gueux sont dans la rue. C'est tout. Mais une manif qui commence aux Champs-Élysées qui termine au Champ de Mars, c'est sympa.
Ça s'appelle le 14 juillet.
Non, mais ouais, mais la Tour Eiffel, c'est cool. Mais en tout cas, pour organiser ce nouveau trajet, il faudrait faire une manif qui partirait de Bastille et qui terminerait à République. Du coup, ce serait un petit peu foiré. La manif, de toute façon, je vous dis, c'est toujours pareil. T'as la moitié des gens qui savent pas ce qu'ils font dedans. C'est pour ça que les syndicalistes et les policiers n'ont pas les mêmes chiffres. Pour un syndicaliste, un mec qui passe dans la rue, c'est un manifestant. Et pour un policier, un mec qui n'a pas de banderole, c'est pas un manifestant. Donc, ce serait bien aussi des manifs où les gens parlent tout bas. Comme ça, on comprend bien les slogans. On veut du pouvoir d'achat. Ce serait mieux pour tout le monde. Parce que dans un mégaphone, t'entends « Oh, le danger !» C'est problématique.
C'est dur, c'est saturé.
Moi, vous savez, les gens tout rouges à qui on voit la veine de cou, j'arrive pas à les écouter. Moi, si je vois ta veine de cou, s'il y a un postillon qui part, tu m'as perdu. En tout cas, le 17 novembre, c'est sûr, on sera nombreux à manifester notre joie. Ben dis donc, ben oui, parce que le Splendide de Lille, c'est 600 places quand même. Donc, il y aura du monde.
Merci. La musique est présente également dans ces bonnes...
La musique est un cri... Pardon.
Non, qui vient de l'intérieur. Elle est présente et elle est émouvante même, puisqu'il y a des cours de chant qui sont donnés par l'une des enseignantes. Et puis il y a une scène où l'on entend...
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler.
Parce que oui, on a dit que c'était extrêmement drôle, que c'était totalement dans notre vie actuelle ou même dans l'actualité. Mais il y a beaucoup d'émotions aussi, Gilles. C'est un ingrédient qui, à côté duquel vous n'avez pas voulu passer.
Bah oui, soit on fait un film juste pour rire, soit on...
Un film juste pourri.
Juste pourri. On essaye de... Non, mais je pense que... Et puis moi j'aime bien la vie, on passe par des éclats de rire et puis par des larmes. Voilà, donc c'était notre manière de raconter cette histoire. Et...
Y compris, vous aimez ce décalage qu'il peut y avoir entre des moments d'une tension, d'une fragilité dingue et... Un humour qui vient, mais qui est...
Oui, il faut déminer, quoi.
Violent, ouais.
C'est, oui, mais bon, c'est le principe comme ça d'être sur une crête, et de temps en temps, on se casse la gueule, hélas, mais... non, le mélange du rire et de l'émotion, c'est moi ce que je préfère dans les... Sinon, c'est juste un peu gratuit, mais c'est super bien de faire que rigoler aussi, mais...
Vous êtes mêlé de l'écriture, Agnès Jaoui? Avec Léonard.
Alors non, et justement, j'allais dire que c'était aussi le talent d'écriture de Léonore Confino qui Moi, vraiment, elle me bouleverse. Elle a une façon de l'air de rien, de... Je sais pas, voilà, tout d'un coup, un mot à côté de l'autre, et puis vous êtes touché, vous êtes... Enfin, elle a une écriture très, très particulière, et moi qui m'émeut à chaque fois, vraiment, qui me fait rire et qui m'émeut.
Ouais,
et
puis je trouve que ce qu'on n'a pas encore dit, peut-être sur le film, c'est que les bonnes intentions de votre personnage, Agnès, vont quelque part jouer un peu contre votre famille, mais au-delà de ça, c'est aussi pour quelles raisons on est mû par des bonnes intentions, parce que c'est la question que ça pose. Il y a une réplique qui oppose l'amour et la reconnaissance. Finalement, qu'est-ce qui est le moteur de l'altruisme? Est-ce que c'est d'être aimé et que ça rejaillit sur nous? Est-ce que c'est un véritable engagement? Et je trouve que pour ça que le film aussi est très réussi, c'est que c'est pas donneur de leçons, on n'est pas en train de vous dire que forcément, vous, vous êtes des ordures parce que vous ne faites rien et elle, elle est très bien, parce que finalement, on peut se poser la question du pourquoi vous agissez, en fait.
Oui, tout à fait. C'est un des thèmes du film. Il en a beaucoup, ouais. Il pose beaucoup de questions. Et d'ailleurs, les quelques avant-premières qu'on a fait là, jusqu'à présent, les réactions des spectateurs, ils échangent après entre eux, justement, entre personnes qui s'engagent ou qui ne s'engagent pas, et pourquoi ça les interroge. Ouais. Et c'est vrai que c'est un des intérêts du film, absolument.
Ça s'appelle Les Bonnes Intentions, on vous l'a dit, on l'a aimé ce film, donc profitez-en, allez-y, ouais, confiant vraiment. Le 21 novembre prochain. La musique dans vos vies, on sait à quel point c'est important dans la vie d'Agnès Jaoui, on va découvrir aussi les musiques que vous écoutez, Gilles Legrand. Agnès, elle, écoutée à la fin des années 70.
Chanson à texte.
Des nuits et des jours et des nuits d'amour. Toi, je le sais, tu pourrais même m'ensoleiller sous la pluie même.
Barbara.
Barbara, vous avez 15 ans à peu près à cette période. Vous commencez les cours de théâtre. On l'a déjà évoqué à de nombreuses reprises avec la figure de Marilyn, comme ça, qui était importante. Et puis aussi, vous commencez les cours de chant lyrique.
Oui.
Qu'est-ce qui a déclenché ça? En parallèle du théâtre.
Au cours de théâtre, j'avais l'impression que je savais, et puis surtout dans les castings, tout ça, vous arrivez, vous savez pas sur quoi on vous juge. Vous êtes en plein dans l'adolescence, donc déjà, voilà, quelques problèmes avec vous-même et votre image, etc.
Le regard
et
des autres, ouais.
Bah oui, et puis il y a quelqu'un qui vous reçoit avec plus ou moins d'aménité, enfin celle d'un vendeur de jeans, d'une vendeuse de jeans qui vous regarde comme ça, genre oh là là, putain, ça va être du 44, il n'y aura pas la taille ou je ne sais pas. Et c'est pas c'est très
violent,
valorisant.
Ouais. Ouais, c'est violent.
Alors que quand j'ai commencé le chant, c'était l'inverse, c'est-à-dire que j'étais dans un rapport au temps, au travail, il y avait plus de, déjà j'avais quelque chose à travailler de plus concret et ça m'a beaucoup beaucoup sauvé.
Il y a une grosse différence dans le plaisir physique entre chanter et déclamer au théâtre, sur des planches. Est-ce qu'on est une caisse de résonance?
Il y a des points communs, bien sûr. Ouais. Il y a une différence parce que, en général, la puissance est encore plus grande, la respiration est encore plus grande. Et puis, on est avec d'autres sur une partition précise et écrite. Et ça, c'est aussi une grande différence.
Bah, au théâtre aussi.
Oui, mais au théâtre, on est plus maîtresse de ses silences, de ses accélérations, j'en sais rien.
De son rythme. Ouais.
De son rythme. Là, il y a un rythme qui est imposé et qu'on doit tous suivre ensemble. Ce qui fait que quand on loupe la marche, c'est compliqué. Et c'est ce que j'adore aussi, c'est qu'on est dans une écoute obligatoire.
Oui. Gilles Legrand, vous écoutiez, vous,
Gainsbourg. Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Cels.
Là, une anecdote de fou. Dingue.
Non, mais moi, j'avais été très, très, évidemment.
Il faut la raconter,
très,
pardon.
Non, mais très ému d'abord par, sûrement dans ma jeunesse, par Brigitte Bardot, quoi, mes premiers émois. Mais.
Je comprenais pas du tout.
Parce que vous aviez l'image aujourd'hui.
Non, mais ému, enfin. Oui, c'est une sorte d'émotion.
Voilà, et c'est quand même une chanson qui a été écrite pour elle. Quand à 19 ans, j'ai voulu faire du cinéma, après avoir peint des rats, je me suis dit, bon, je vais réaliser des films. À l'époque, ça n'existait pas vraiment, les vidéoclips. Hein. Mais assez peu. Et je me suis dit, bon, allez, je vais aller voir Serge Gainsbourg, à 19 ans, avec ma gueule un peu enfarinée. Et puis, j'ai été toqué rue de Verneuil, chez lui, et il a ouvert la porte, il m'a regardé avec... j'ai commencé à bafouiller, à peu près comme je le fais maintenant... très ému en disant que je voulais faire un clip de cette chanson. Et il m'a gentiment refermé la porte au nez. Et voilà, ma carrière a commencé par un retentissant échec. Donc j'essaie de me rattraper maintenant.
Il faut se mettre à sa place. J'imagine qu'il devait y avoir beaucoup de personnes qui allaient rue de Verneuil frapper, sonner. Ils pouvaient pas.
Mais
non
pourquoi
plus...
vous le défendez? Non, moi j'aurais adoré. Ceci dit, je sais pas très bien ce que j'aurais pu faire.
Si, hein, non, mais c'est bien de commencer par un nom de Gainsbourg en même temps. Je veux dire, c'est pas comme le nom de Michel du coin de la rue. Quoi. Ouais, je veux dire, tant qu'à faire. Voilà.
Il vous a demandé vos références. Je peins des rats.
Voilà.
Non, mais vous aimez mieux un nom de Gainsbourg qu'un wig Chantal Goya, tu vois, il y a des trucs comme ça.
Je voulais pas aller jusque-là.
Il y a du challenge.
1991, Agnès Jaoui, vous écoutez. Vinicius et Moraes.
Et on a évoqué tout à l'heure Cuisine et Dépendance. 465 représentations, mais en tout cas en 91, vous écrivez cette pièce avec Jean-Pierre Bacri et vous êtes toute une joyeuse troupe. On a parlé de Zabou, tout à l'heure on a évoqué Sam Carman, et Jean-Pierre Laroussin. Quel est le point de départ de l'écriture de Cuisine et Dépendance? Parce que quand on voit un tel succès comme ça, on a toujours envie de savoir d'où part l'idée. Est-ce que c'est une réplique, une thématique, une discussion, un soir? Vous souvenez?
C'est toujours compliqué. Enfin, ouais. En tout cas, mais, non, je me souviens absolument pas de un soir, une discussion. Je sais que l'idée que le succès impliquait le talent nous exaspérait, Jean-Pierre et moi, et qu'on avait vraiment envie d'écrire là-dessus sur le fait que.
Ce qui a bien changé depuis. Évidemment.
Voilà, c'est ça. Ça prouve l'utilité de l'écriture. Enfin bon, bref. En tout cas, c'est vrai que c'est. Ce sujet-là nous a motivé beaucoup.
Ouais, ça c'est la genèse même de l'écriture de la pièce.
Et comment vous êtes tombé dans la musique brésilienne, Vinicius de Moraes?
Grâce à mon père, qui écoutait et qui écoute toujours plein de genres de musique. Et puis Vinicius de Moraes, ça fait partie de ces auteurs qu'on aime, voilà, on ne connaît pas les paroles. Et puis un jour,
on
accède.
Hein, vraiment, ouais.
Mais c'est extraordinaire. Ouais. C'est comme Brassens, voilà. D'ailleurs, cette chanson dit « La tristesse n'a jamais de fin, le bonheur, oui. »
Quant à vous, Gilles Legrand, vous écoutiez.
Ce pays frappe la nuit.
Et la loi.
Johnny, que vous chantez?
En fait, je fais partie d'une chorale que je salue ici, que vous pourriez inviter, qui s'appelle les Tontons. On est une quinzaine de sexagénaires, de jeunes sexagénaires, ou quinquagénaires. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore... Non, mais on va tous basculer, quoi. Moi, ça y est, je viens de basculer, mais eux, ils vont basculer et ils suivent.
Donc c'est des vieux quinquas.
Voilà, c'est une de nos chansons. Alors, on peut la réussir. Et ils m'ont chanté pour mon anniversaire, et on peut la rater aussi.
Ça dépend de l'heure.
Ouais, mais invitez les tontons, vous verrez.
Et dans ces années-là, c'est la production de votre premier film avec votre compère Frédéric Brion. Blanc d'ébène, ouais. Et je crois que c'est une sorte de road trip en Guinée,
ouais.
Qui a tout déclenché.
Oui, mais j'avais déjà ce goût de l'Afrique, c'est pour ça
C'est le Dakar.
Non, mais on avait été en Afrique avec Frédéric Brion et on avait découvert des tirailleurs ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, qui avaient une vision de leur débarquement qui était venu une fois en France en 44 ou 45 et qui avaient une vision de notre pays incroyable, quoi. Ils vous racontaient un bombardement comme un feu d'artifice du 14 juillet.
Ouais.
Et ça nous avait beaucoup touchés. Puis comme on voulait produire un film mais qu'on n'avait pas une thune, il y avait une méthode, c'est que vous allez à l'avance sur recette et vous regardez les projets orphelins. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui ont l'avance sur recette, qui est une aide du Centre National du Cinéma.
Et qui n'ont pas de producteurs.
Et là, on a rencontré Cheikh Doucouré qui a réalisé ce film et qui racontait en partie
Et pourquoi appeler votre société Épithète?
Ça va faire un flop.
Par manque d'attributs.
Parce qu'aujourd'hui, il fait beau et puis peut-être demain. C'était aussi bête que ça. C'était ça.
C'est pas du tout. Van raciste.
Pourquoi tu poses la question, Nagui, à chaque fois?
Mais comment vous le savez? Comment vous le savez ça? Non, vous le saviez pas. C'est une question.
Non, je trouvais ça.
C'est vraiment ça. C'est aujourd'hui, il fait beau et puis peut-être demain, il fait pas beau.
Mais c'est pas. Moi, je vous félicite. Voilà. Mais je suis positif autour de cette table.
Heureusement qu'Agnès l'a pas su avant le montage du film parce que je pense qu'elle aurait refusé le rôle.
Ils en ont encore, mais ils en cachent.
En tout cas, c'est juste le début d'une longue aventure de production parce que vous avez quand même produit Ridicule, Tenue correcte exigée, Vertige de l'amour, le nous.
Je règle mon pas sur le pas de mon père. Non, c'est pour rendre hommage à Rémy Waterhouse qui avait écrit Ridicule, qui est plus de ce monde, mais qui était un auteur. Comme quoi les scénaristes, c'est super important.
Ouais. Retour aux bonnes intentions. Donc, ce film que vous produisez est réalisé. Donc.
Quand je le réalise, c'est beaucoup Frédéric qui fait le boulot, quoi, de production.
D'accord. En tout cas, ce film sortira le 21 novembre prochain. Il a pour toile de fond le milieu associatif. C'est pour ça que nous avons demandé à Jasmine Kozig, merci de venir à ce micro, Jasmine. Vous êtes chargée de projet de l'association Tous Bénévoles, qui met en relation les associations et les candidats bénévoles. Il y a même un site internet, tousbénévoles.org, que je redonnerai après vous avoir demandé s'il y a un profil, justement. Tout à l'heure, Tom, en blaguant, en disant ceux qui sont...
C'était pas une blague, bah non.
Ok. C'est pas une blague. Alors ceux qui sont, parce que je ne crois pas que forcément quand ceux qui sont bénévoles et généreux sont forcément les plus riches ou ceux qui en ont les moyens. Est-ce qu'il y a un profil justement des bénévoles?
Donc les profils sont très variés. Pour reprendre une enquête qui est sortie récemment et dirigée par Monsieur Proutot pour le Centre de recherche sur les associations, il montre que 43% en fait des personnes de plus de 18 ans donnent de leur temps bénévolement. Il y a un peu plus d'hommes que de femmes, mais c'est dû au fait que les hommes sont surreprésentés dans les associations sportives. Et quand on regarde le domaine de l'action sociale, en effet, il y a plus
le
de
femmes. Le sport y est pour beaucoup.
C'est ça. Le sport. Oui, les hommes
Je voulais comprendre. Les hommes sont surreprésentés dans le monde du sport.
Voilà, dans les associations sportives.
D'accord.
Et donc, on a fait une autre enquête.
Ça, c'est le milieu associatif en règle générale.
Voilà,
c'est
en règle générale.
C'est pas dans le bénévolat.
De manière très très large.
Bien que être responsable d'un club de sport pour des gamins, c'est du bénévolat, c'est-à-dire c'est travailler entre guillemets sans être rémunéré.
Voilà. Et on a fait une autre enquête sur les utilisateurs du site de Tous Bénévoles. Et là, on a une grosse majorité de femmes de moins de 35 ans, salariées ou étudiantes, et plutôt dans les centres urbains.
Alors, est-ce qu'il y a des modes, le mot est peut-être malvenu, des tendances dans les engagements, c'est-à-dire qu'en fonction de l'actualité, en fonction de ce qui se passe, de drames humains ou de drames sur notre planète quand il y a des guerres ou des tsunamis, d'un coup, tout le monde s'engage pour une cause. Est-ce que c'est toujours lié à l'actualité? Est-ce qu'il y a des tendances ou pas?
Alors oui, c'est en partie lié à l'actualité. Donc là, on a beaucoup de personnes qui se tournent vers l'accueil des réfugiés, vers la protection et défense de l'environnement. Et après, on a des missions qui attirent toujours, comme le secourisme, l'aide aux personnes sans abri, la collecte et la distribution de vêtements, de nourriture, etc.
Il y a des une jeunesse qui est plus engagée qu'avant. De plus en plus, les jeunes s'engagent ou pas tant que ça. Les réseaux sociaux peuvent aider d'ailleurs à réveiller des...
On peut penser que les jeunes s'engagent moins. En fait, selon les enquêtes, les jeunes s'engagent un peu moins dans la régularité, mais par contre, ils s'engagent beaucoup et selon diverses modalités. En fait, il y a beaucoup de dispositifs qui existent pour les jeunes, que ce soit le service civique, le volontariat européen, international, le bénévolat, etc. Aussi, les associations étudiantes. Donc aujourd'hui, on estime qu'un jeune sur trois donne du temps bénévolement dans des associations ou organisations.
Vous dites beaucoup donner du temps, c'est-à-dire que c'est le premier indicateur, la première facilité, c'est-à-dire ne vous posez pas de questions si vous donnez de l'argent ou si votre société va livrer des produits gratuitement. Donner de votre temps, c'est le plus grand luxe finalement.
Oui, après il y a différentes façons de s'engager. En effet, bon là on est sur Tous Bénévoles sur l'engagement via le don de temps, oui.
Alors, et on vous contacte, c'est-à-dire après, ceux qui ont envie de donner mais qui ne savent pas comment le faire, où le faire, quel est votre oui. rôle? Vous, c'est un rôle de plateforme en disant, bah tiens, on a besoin justement de personnes qui pourraient enseigner le français.
Toute personne qui cuisine, prépare voilà. des repas, qui distribue.
Oui, alors en fait, Tous Bénévoles a une plateforme de mise en relation via tousbénévoles.org où chaque personne qui veut s'engager peut se créer un profil et chercher des associations qui l'intéressent, des missions qui l'intéressent. Et après, si la personne a besoin d'orientation, peut en effet nous appeler et on peut les conseiller sur comment chercher une mission. Après, cette personne prend contact avec l'association et rencontre les membres de l'association pour commencer sa mission.
Alors généralement, ceux qui se décident à devenir bénévole, c'est par engagement politique, humaniste.
Alors selon
le bouche à oreille, les copains oui. qui disent tu devrais toi aussi faire quelque chose.
Oui, je pense qu'il y a un peu tous ces moyens-là. Les motivations qui sont ressorties de l'enquête Recherche et Solidarité menée en partenariat avec Tous Bénévoles, c'est les trois sources de motivation principales, c'est aider les autres, se sentir utile et défendre une cause. Donc voilà, ça répond à des motivations humanistes et politiques.
Est-ce que votre étude est allée jusqu'à analyser le bien que ça fait à quelqu'un qui donne ? Justement, de son temps ou autre chose.
Donc on n'est pas allé jusque là, mais en effet, on retire évidemment des choses positives de son bénévolat ou de son engagement. On s'engage de manière désintéressée et après on peut voir que finalement on retire beaucoup de choses parce que je pense que l'engagement et le bénévolat c'est un échange avant tout. Donc on fait pas que donner.
C'est bien payé.
Le mec qui n'a rien compris quoi depuis tout à l'heure, c'est fatigant.
Dans les bonnes intentions, je rappelle que c'est une comédie, le personnage d'Agnès Jaoui met en péril l'équilibre de sa vie privée, de sa vie de famille. Mmh. Alors oui, c'est le trait grossi, mais ça peut aussi arriver des personnes qui basculent justement dans une sorte de dévotion au point de s'oublier ou d'oublier ses proches.
Alors oui, ça peut arriver, mais après le profil que nous on voit plutôt à Tous Bénévoles, c'est plutôt des gens qui s'engagent dans toutes les sphères de leur vie en fait, que ce soit sur la sphère familiale, professionnelle et l'engagement associatif.
Est-ce que ceux qui s'engagent dans le bénévolat engagent avec eux toute leur famille aussi, c'est-à-dire poussent, éduquent leurs enfants? Tout à l'heure, Gilles Legrand rappelait qu'il y a cette phrase dans le film en disant une maman c'est être un exemple. Est-ce que justement ça donne des exemples? Est-ce qu'il y a un côté génétique? Les parents bénévoles font des enfants bénévoles et ainsi de suite?
Oui, bien sûr, il y a la valeur de l'exemple et l'étude a aussi montré que quand on a des proches.
Elle vous a plu cette étude, hein, vous êtes.
Comment?
Non, elle vous a plu cette étude, hein, vous êtes vraiment.
Ouais, c'est pour vous donner des.
Non, mais c'est votre
vécu
aussi, c'est ce que vous savez.
Continuez, je suis, ne l'écoutez pas.
Faites comme tout le monde.
Voilà. Avancez.
Oui, quand on a des proches qui s'engagent, évidemment, ça donne envie aussi de s'engager soi-même.
Est-ce que là aussi c'est l'un des traits que soulignait Leïla dans le film, le personnage, certains personnages font du bénévolat pour soigner soit une plaie, soit un passé, soit se
oui,
racheter. Enfin,
c'est pas toujours désintéressé en ouais. réalité, même si c'est pas forcément conscient.
Oui, alors là sur ça,
l'étude ne dit rien.
Ce que je peux vous dire, c'est, je pense à une fille en particulier qui s'appelle Léa Moukanas et dont la grand-mère est décédée d'une leucémie très brutale et qui, à la suite de ça, à 15 ans, elle a monté son association qui s'appelle AIDA et qui aujourd'hui sensibilise sur la maladie et présent dans les hôpitaux.
Il y a des tonnes d'exemples comme ça quand on sait que le Téléthon, voilà, ce sont oui. les familles oui. d'enfants oui. malades et qui ont perdu leurs enfants qui ont eu le réflexe de se dire plus jamais ça, mettons-nous entre familles endeuillées mm-hmm. pour essayer d'accompagner d'abord les autres parents, évidemment ensuite de récolter de l'argent pour que les chercheurs puissent progresser et trouver des remèdes. Et ça arrive d'ailleurs, c'est ça qui est fou, c'est que des années après, 60 ans après, on se dit waouh, il y a des réussites, il y a un constat en tout cas de réussite. Est-ce que le fait de justement d'être concerné rend ou d'être peut-être coupable d'ailleurs, de se dire j'ai tellement profité de la vie ou j'ai tellement gagné d'argent que je vais faire des dons de l'autre côté. On voit des campagnes publicitaires de qui disent clairement pensez au legs, pensez à donner à votre décès, remplissez votre testament, vous avez bien pris dans votre vie, donc maintenant donnez aux autres. Ça, c'est est-ce que l'étude en parle?
Nagui en pleine rédemption en ce moment. Il se fouette, là, mais ça va aller.
Ça donne bonne conscience aussi.
Ouais, c'est hein? Ça.
Ouais, ouais. Mais, ouais. Mais c'est pour ça que je disais, ça fait du bien, mais dans tous les sens du terme.
Non, mais ça fait forcément du bien de faire du bien aux autres. Mm-hmm.
Mais alors, le titre des bonnes intentions, parce qu'on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions.
Ouais, mais une bonne intention, en général, ça commence bien, ça finit mal, quoi. Ouais.
C'est pour ça que je revenais sur le titre.
On a l'intention de faire quelque chose. Et à l'arrivée, on ne le fait pas exactement comme prévu, ou ça a des conséquences.
Ouais, ou alors c'est un discours parfois, votre personnage, Agnès Jaoui, est un peu moralisateur, c'est-à-dire qu'elle est à table avec des copains, et forcément, on ne peut pas manger tranquillement parce qu'elle va reprocher à celui, par exemple, qui ne finit pas son assiette. Alors on peut le faire aux enfants, moi j'ai été traumatisée par ma mère là-dessus, mais quand on est entre des copains, entre copains à table, on se dit, il y a peut-être un moyen de baisser un peu les armes 4 secondes et pas de partir bien en tête sur tous les sujets, et donc ça peut rendre votre compagnie, en tout cas celle de votre personnage, un peu pénible.
Oui.
Merci.
C'est vrai.
Merci de m'aider, Agnès.
Mais on en reparlera tout à l'heure. Jasmine Kozik, merci en tout cas d'être venue. Je redonne l'adresse de votre site, tousbénévoles, au pluriel, donc tousbénévoles.org. Merci, Jasmine. Tanguy Pastureau, Tanguy sur Facebook. Bonjour, Tanguy.
Bonjour.
Nous postons, enfin vous en tout cas, des photos un peu bling-bling.
Oui, puisqu'on a pas assez confiance en nous pour avouer à nos amis qu'on a une vie de merde. Alors on fait comme Stephen Bern, on pose devant des châteaux en faisant croire qu'on vit dedans. Alors que l'instant d'après, le châtelain nous a tiré dessus en criant « Dehors les Roms !» Et le pire, c'est qu'en plus, les services des impôts maintenant vont regarder ces photos et nous aligner pour fraude fiscale.
On en reparle après les infos de midi. La deuxième partie avec Leïla Kadorouzadeh, Daniel Morin, Tom Villa, Tanguy Pastureau, Jérémy Crédu, et nos invités Agnès Jaoui et Gilles Le Mans. Avec ce film qui sortira le 21 novembre, Les Bonnes Intentions, cinquième film de Gilles Legrand, elle a été facile à convaincre, Gilles Legrand, Agnès Jaoui ou pas?
Bah c'était facile parce que on lui a envoyé le scénario, elle a lu le scénario, elle m'a pas rappelé, mais elle le raconte mieux que moi, mais
ah bon, mais dans sa tête c'était fait, non, c'est ça?
Non, en général, quand j'accepte un film, enfin pas en général, à chaque fois, c'est je le lis, il me plaît, et je dis oui.
sauf que ses bonnes intentions, ce film-là n'est pas vraiment dans l'univers de Gilles Legrand.
C'est vrai que il se trouve que le scénario m'a beaucoup plu, que j'ai aussi vérifié ce qu'avait fait Gilles Legrand comme metteur en scène, et que jusqu'à présent, il a fait des films que j'aime beaucoup, mais qui sont pas du tout des comédies. Mais néanmoins. Le scénario étant si drôle, et puis je me suis dit qu'il devait avoir un peu d'humour puisqu'il l'avait écrit et coécrit, donc voilà.
Mais on s'est croisés il y a très longtemps avec Agnès.
Épithète, film.
Oui, en plus. Mais ça, je ne savais pas.
Pardon, Gilles, vous étiez rencontré déjà?
Non, mais on s'est croisés il y a 25 ou 30 ans à Sarasota, à l'époque Daniel Toscan du Plantier, qui était le producteur qu'on connaît, organisait la promotion du cinéma français et emmenait un Boeing d'acteurs, réalisateurs, producteurs en Floride, dans une espèce de station de balnéaire complètement pourrie.
Ah oui, alors.
Mais c'était une super occasion de croiser d'autres acteurs, d'autres metteurs en scène, et voilà, on s'était croisés là quand on avait 30 ans.
Absolument. Les bonnes intentions, le 21 novembre prochain au cinéma. Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, nos réseaux sociaux vont être surveillés par le fisc.
Oui, Gérald Darmanin l'a annoncé hier dans Capital, l'émission capable de consacrer 90 minutes au business du surimi. Nos comptes Facebook bientôt seront scrutés par Bercy, dont les agents vont se taper toutes nos photos de Noël en pull moche avec des rennes et donc se suicider. Darmanin l'a dit, il y a trop de fraude au fisc, trop de brosouf dont lui ne voit pas la couleur. Or, son job, c'est un peu le même que celui des cochons truffiers, mais avec des billets de banque, il doit en trouver partout où il y en a. Et le souci, c'est que Darmanin, ainsi ainsi que Bruno Le Maire, son chef. Ce sont des mecs timides, introvertis. Mylène Farmer à côté de Darmanin, c'est la gaffe qui hurle bip bip avec le slip de sa sœur sur la tête. Quand ils se retrouvent face au boss de Facebook, ils n'osent pas lui dire « Dis donc vieux, t'as cru que notre pays c'était une foire à tout ? Tu veux pas aussi qu'on demande au Secours Populaire d'emmener tes gosses à la mer en juillet ?» Trop timide. Donc Claude ne paye rien et dans les caisses, il y a un trou encore plus énorme que celui que Faudel a sur son CV. Donc les gonzes, plutôt que de tasser Facebook, vont surfer sur Facebook et si vous voient en photo chez un horloger suisse en compagnie de Julien Drey, avec comme légende « Wesh, les gros à deux, on a 50 000 boules sur nos poignets », hashtag fuck les montres Swatch. Eh ben, Darmanin vous enverra un message en vous disant « Je viens de vérifier, l'an dernier, ils avaient déclaré 150 euros, il y a comme un testicule dans le velouté, il n'écrit pas couille dans le potage parce qu'il est ministre et que la fonction implique une expression écrite « châtier ». Gérald Darmanin, hier l'a dit, si vous êtes en photo avec une voiture de luxe, une fois ça passe, deux fois aussi, la troisième, on vérifiera si vous avez les moyens de vous la payer. Donc tout le monde va se faire shooter en Twingo. D'ici deux jours, le Facebook d'Arnaud Lagardère, c'est lui et sa femme en haillon perché sur une carriole à bœuf qui n'a plus qu'une roue. Seulement Darmanin qui nous épie comme un chasseur le fend un aimier. On se dit c'est Little Brother, c'est-à-dire Big Brother, mais quand on a comme lui le physique d'un des Kids United. On pense atteinte aux libertés. Si moi j'ai envie de poser dans une belle bagnole, parce que j'aurais choisi de passer une après-midi avec vous, Nagui, j'ai pas envie d'être obligé de faire des selfies avec Daniel Morin en doudoune sans manches et chemise râpée juste pour éviter un contrôle fiscal. Et en fait, non, tout est légal. Car Darmanin l'a dit hier, ce sont les internautes eux-mêmes qui publient des photos d'eux. Lui n'a plus qu'à regarder et piéger mamie Ghislaine posant devant le resto du Plaza Athénée, alors qu'en réalité, elle attendait que sorte Frédéric François en train d'y dîner pour lui crier « Vas-y Fredo, prends-moi, à l'âge qu'on a tous les deux, j'ai pas mis de stérilet. »
C'est pas vrai.
Mais c'est vrai que les trois quarts des photos postées sur les réseaux sociaux sont plutôt clinquantes.
Mais ouais. Bien sûr, personne ne fait de selfie avec son conseiller Pôle emploi. Quand sur Instagram, vous tapez « hashtag cave de Melun », il n'y a pas une photo. Vous attendez de croiser Kylian Mbappé dans la rue pour en faire une. Or, en valeur, il pèse quatre fois le chiffre d'affaires des casinos par touche. Donc, signe extérieur de richesse, Darmanin vous aligne et les gens ne vont plus faire de photos qu'avec Philippe Poutou. Et parfois, on sera perdu si je pose avec Michel Houellebecq, qui a du blé, il a vendu des millions de livres, mais qui a l'apparence d'un mendiant bulgare dont le teckel qu'il essaye de revendre dans la rue a bouffé la moitié du crâne. C'est richesse ou pas richesse ? Non mais moi, je suis pas prêt de mettre une photo de moi avec le chien de ma tante. Elle lui a acheté un petit manteau Gucci avec des perles. Je vais me faire allumer par Bercy. Non, à la place, j'ai commandé un rat sur annehidalgo.com. Et ce truc de surveillance des réseaux, ça ne date pas d'hier. Je me suis intéressé au sujet parce que quand je fais une chronique, je me documente. C'est pour ça que ce sont de petits bijoux de précision qui, au-delà de l'humour, abordent avec audace les enjeux de la société d'aujourd'hui. Oui. Les données Facebook sont déjà exploitées dans le cadre d'enquêtes de police. Hein, au lieu de demander où étiez-vous le 12 entre 15 et 16 heures, on peut dire au suspect « on sait où t'étais, dans la piscine de l'hôtel du Loukoum foireux à Istanbul, avec ta mère, laquelle aime les chats et Vinci, pas le peintre, les autoroutes, parce qu'en plus elle roule en Audi Q8 alors qu'elle bosse à la poste. Et là où vous tombiez juste pour meurtre, parce que votre mère a été retrouvée au fond de la piscine attachée à un bronze d'Erdogan, il y en a tous les 50 cm en Turquie, et ben en plus maintenant vous serez poursuivi pour fraude fiscale. Mais ça va tout changer cette surveillance des réseaux sociaux qui débute en janvier. Parce qu'à Saint-Tropez, fini les photos devant les yachts des mafieux russes, maintenant au maximum les gens prendront des selfies avec en arrière-plan Patrice Lafont en train de jouer aux boules. Les papas vont dire à leurs ados, terminez les photos où timide Kim Kardashian avec pas de slip et juste le manteau de fourrure de Mémé Hortense. Désormais, comme star que je t'autorise à copier, il y a juste Anémone. Pas envie que Darmanin m'éclate. Et les clips de rap, je vous le dis, dès le 1er janvier, on voit Booba en Citroën C1 devant une yourte avec un pull Célio à 9 euros. Donc grâce à Darmanin, on va enfin valoriser l'absence de fric, la rusticité, la simplicité. Bientôt, le profil le plus bling-bling qu'il va trouver sur Facebook, ce sera celui de José Bové, qui regardera en se disant « Je trouve ses poils faciaux brillants, ça sent le baume à moustache Estée Lauder, et cette chef derrière est bien grasse. Allez hop, contrôle ! Fini l'industrie du luxe. Or, c'est tout ce qu'on arrivait encore à produire. Donc, fini la France. Maintenant, je vous laisse, je vais me faire prendre en photo dans la rue avec une couverture. Avec un peu de bol, ce sera pile au moment où il y a le SAMU social. »
Merci, Dominique Lassure. Les bonnes intentions le 21 novembre au cinéma avec Agnès Jaoui et Alban Ivanov
en moniteur d'auto-école qui est pas complètement convaincu au départ en tout cas par cette mission altruiste qui lui y voit en fait un business en fait.
Ah ben oui oui, il y a de quoi faire un petit business. Oui, il dit à Agnès, vous êtes une bourgeoise, vous faites du social et moi je suis un pauvre, je fais du business. Ouais, il y a une urgence.
Ouais. Ouais, lui il est là pour exploiter finalement le.
Mais il s'en cache pas, ouais, il ouais, le dit en voilà, plus. Hein.
Au début. Il les cache, oui. Ouais.
Et puis il y a des scènes de comédie extraordinaires. Moi j'ai adoré la thérapie du couple avec le personnage qui joue votre époux Agnès Jaoui et cette communication non violente.
Ouais, ça existe vraiment, ouais, la CNV.
La CNV.
Effectivement. Bah, c'est important de savoir communiquer avec l'autre. Ouais, et, ça peut changer tout. Et oui, ça prête à des scènes de comédie, mais moi, j'engage tout le monde à aller faire des thérapies de couple.
L'expression du besoin, je crois, hein, ça passe par là.
Mais c'est dire une saloperie gentiment.
Ouais, c'est ça. Alors, un exemple, Gilles.
Si,
tourner un reproche.
Une saloperie de faire un reproche. Enfin, voilà, dans un couple, c'est souvent compliqué de s'entendre. Je sais pas si.
Ça dépend des couples, oui.
Ouais, ça dépend des couples. Mais enfin, disons, voilà, en tout cas, quand on a un reproche à faire, plutôt que d'attaquer bille en tête, de partir de son ressenti. Voilà.
Ouais.
Ça marche en tout cas, ça marche extrêmement bien. Et c'est vrai que c'est toujours sur le fil entre le drame et la comédie.
On l'a dit.
C'est
l'équilibre que vous avec lequel vous jouez qui est toujours un peu dangereux quand même parce que
on va nous reprocher peut-être de entendre de tomber ou d'aller peut-être un peu loin, mais c'est vrai qu'on c'est le bonheur de, mais ça passe beaucoup par l'interprétation, ça c'est écrit, précisément écrit, mais après soit l'acteur qui va l'interpréter peut le faire sombrer à droite ou à gauche dans un voilà, soit on reste sur la ligne parce qu'il y a de la sincérité et qu'on y croit.
Est-ce que vous êtes
interdit des vannes ? Moi, je suis le gardien de but de ce truc-là, quoi.
Okay. Enfin, est-ce que vous êtes dit non, on peut pas aller là-dessus, c'est trop touchy, on peut pas.
Ah, il y avait un truc où on s'est arrêté et j'ai un petit regret. Non, c'est que il y avait donc son mari est bosniaque, donc musulman. Et puis ils ont une petite histoire au lit
elle a un mot
un peu malheureux puisque son plaisir c'est qu'il lui parle en bosniaque et ça m'a fait penser
à un poisson nommé Vanda.
Oui, c'est voilà, vrai, c'est...
Bah, mais ça l'aide dans son plaisir et bon c'est son truc. Et à la fin, elle comprend pas et elle dit « Oh, les musulmans, vous êtes pas fun au lit. »
Enfin, elle le dit pas parce elle qu'effectivement...
Elle le dit pas, on l'a tourné et puis moi je me suis dit « Bon... » Ça va quoi, on va pas en rajouter, si c'est pour... Mais on avait envie.
Ceci, il y a d'autres vannes sur les musulmans.
Ah non, mais
vous
n'êtes
pas interdit.
Non, on n'est pas interdit,
les vannes sur les musulmans.
Non, mais on parle des juifs, on parle des musulmans, voilà. On parle des français.
Donc là, vous aviez peur que ça soit mal compris ou que ça soit...
Eh oui, quoi, ouais. Bon, on va... Voilà.
Ouais, parce que vous évoquez la prostitution, par exemple.
Tout.
Il y a plein de sujets qui sont...
Tout y passe.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une vraie radioscopie du réel et de tout ce que ça peut entraîner derrière avec ce personnage, cette jeune femme.
Ah oui, ouais. Et puis c'est le frère qui a l'hôtel. Ouais,
ouais
c'est ça.
On a des nazis aussi, non, on a plein de trucs.
Ouais. Ouais, c'est vrai, il y a un truc très collégial. Ouais.
C'est très européen.
C'est très intelligent, c'est très drôle. Oui. C'est très drôle et très intelligent.
C'est bien fait.
Pas,
hein.
Ce qui n'est pas le cas de Daniel Morin.
Merci, bravo.
Ça nous va prendre cher.
Mais Daniel...
Alors, on savait qu'il n'était pas vraiment, vraiment fréquentable, mais là, il mérite une médaille. Qui ça? Le vilain Donald Trump. À l'occasion du week-end de commémoration de l'armistice, il a été odieux, mais odieux du début à la fin. Juste avant d'arriver à Orly, le gars, il tweet « Ouais, Macron, il veut créer une armée européenne pour se défendre contre les États-Unis, la Chine et la Russie. C'est une insulte. Shame on you, Manu, you dirty motherfucker. » Pour la dernière phrase, je suis pas sûr. Mais c'est bien le style. Bref. Non, mais il est choqué que notre président suggère une armée pour se défendre contre les Américains, les Russes et les Chinois. Donald, un mec, vous faites un peu peur des fois, toi, les Russes et les Chinois. Entre toi qui veux buter les musulmans, les latinos et les démocrates du monde entier, Poutine qui fait assassiner les opposants politiques et crucifier les homosexuels, et le président chinois qui fait exécuter chaque année plus de gens que dans tout le reste du monde réuni, il y a de quoi avoir les chocottes. Pas étonnant que Manu Macron milite pour une armée européenne. Bon, bien sûr, quelques heures plus tard, Donald déclarait qu'il avait très hâte de passer ces quelques jours avec son très bon ami Emmanuel Macron. Alors samedi, c'est le pompon parce qu'il y a clairement tentative d'assassinat. Samedi, Donald déjeune à l'Élysée. Quand il repart, on voit sa voiture, enfin voiture, son char d'assaut, qui démarre dans la cour de l'Élysée. Et le pauvre Emmanuel et sa Brigitte en prennent mais plein la gueule. Les gaz d'échappement de la bagnole à Donald, qui lui, pas fou, s'était mis sur le côté, tu comprends que les États-Unis soient retirés de l'accord de paix sur l'environnement. Hein. En fait, ils n'ont pas le choix. À chaque démarrage de la bagnole présidentielle, il y a deux, voire trois espèces en voie d'extinction qui disparaissent définitivement. En deux coups d'accélérateur, Brigitte et Manu ont été gazés comme deux poilus dans les tranchées. Trump y roule au gaz moutarde. Le lendemain, dommage pour Donald, Manu et Brigitte ne sont pas morts asphyxiés. La cérémonie continue. C'est la remontée des Champs-Élysées dans un bus spécial pour les plus de 70 chefs d'État. Tout le monde ensemble, sauf un... Donald, ouais. Donald qui préfère rester dans sa bagnole, on sait jamais s'il y a quelqu'un à gazer dans le coin. Un peu plus tard, Emmanuel invite tout le monde à la Villette pour le forum sur la paix. Bonne idée pour commémorer l'armistice, un forum pour la paix. Bah Donald, il fait quoi quand c'est comme ça? Il y va pas. Bah oui, il y va pas. Il file visiter tout seul un cimetière américain. Là, pendant cette visite, on a bien senti qu'il était content d'avoir été invité par le président français et tous les chefs d'État. Il a déclaré seul dans le cimetière: ce moment, c'est vraiment le meilleur moment de ces deux jours. Fallait pas venir, hein, si c'est pour faire la gueule, hein. Ta tête de cochon, Donald. Heureusement, il y a eu de bons moments et même d'excellents moments pendant ces cérémonies. Samedi toujours, Emmanuel Macron et Angela Merkel étaient ensemble pour inaugurer une plaque commémorative. Les deux dirigeants ont par la suite serré quelques mains, dont celle d'une dame âgée de 101 ans. Dame qui leur a exprimé toute sa fierté de serrer la main du président et de Madame Macron. Elle a pris Angela pour Brigitte. Vous me direz, faut le faire, hein, confondre Angela Merkel et Brigitte Macron. Hein, c'est comme confondre Leïla et moi. Mais pas bon. Elle a 101 ans, que voulez-vous? La chancelière a tenté de lui expliquer qu'elle n'était pas Brigitte Macron, mais la vieille dame n'a pas compris, trop heureuse de sa rencontre avec le couple présidentiel. Et là, je me dis, mais heureusement que le président français n'a pas fait le déplacement avec Donald. Si la vieille dame avait pris Donald pour Brigitte, je pense que, con comme il est, il lui aurait sûrement pété la gueule à la douce mamie, l'autre malade de Washington.
Allez,
à
demain. Merci.
Avec Nagui.
Le 21 novembre prochain, Agnès Jaoui, Alban Ivanov, Tim Seyfi, qui joue le rôle donc de votre mari dans ce film, Claire Sermon, Michel Moretti, Philippe Torreton dans son propre rôle, Éric Vielard, Marie-Julie Baupe, Didier Benureau, Martine Schwambacher, Chantal Yam, Roméo Ustiak, Guy Drey. Alors, Guy Drey, elle est chanteuse, humoriste, et elle est juste parfaite dans le personnage.
Dans le rôle de Miroslava, une Bulgare.
Ouais.
Mais elle est lituanienne d'origine, elle est née en Lituanie.
Et elle joue beaucoup avec cet accent, même sur scène, même quand elle chante.
Oui, elle s'en sert. Et en fait, moi, j'avais fait le casting plutôt pour faire le rôle de cette prof d'allemand. Et elle m'a tellement fait rire que je me suis dit que voilà, elle pouvait faire cette Miroslava.
Ah, très très forte. Salia Balin, Nuno Rock, Bass Dem, Lucie Ryan, Théo Gross, Jenny Bellet, Tatiana Rojo et Daria Pachenko dans ce film qui s'appelle Les Bonnes Intentions et qui sortira le 21 novembre prochain. Déjà des projets, d'autres projets pour vous Agnès Jaoui, notamment vous serez avec Yolande Moreau dans un film qui s'appelle Le Voyage en Chine, ou ça a changé de titre peut-être.
Voyage en Chine, c'était le film précédent de Voltaire.
Oui, exact. Donc, ça s'appelle comment le nouveau?
Je sais pas très bien. Harmonie, je sais plus très bien parce que c'était un titre provisoire.
D'accord.
Mais effectivement, oui, je suis ravie de jouer avec.
Avec Zoltan Meyer et Yolande Moreau. Enfin, Zoltan Meyer réalise, ouais. Et Yolande Moreau joue. Quelle est l'histoire?
C'est une femme que j'interprète, qui va mourir et qui retourne voir sa sœur. Voilà. Pour lui parler de, qu'elle a pas vu depuis 20 ans parce que elle n'approuve pas mes choix de vie.
Une comédie, quoi.
Étienne Comard également, vous êtes dans son prochain film?
Oui, c'est un film qui s'appelle À l'ombre des jeunes filles avec Pierre Deladonchamp qui se passe en prison, celui-là. J'ai joué une assassin.
Encore une comédie.
Et le prochain film que vous écrirez ou réaliserez?
J'écris avec Jean-Pierre Bacry. C'est plutôt une pièce pour l'instant, mais nous verrons.
Et dans l'intention de la jouer ensemble ou de l'écrire pour qu'elle soit... Ah, vous voulez jouer ensemble, au théâtre, tous les deux?
Oui.
Génial.
Ouais.
Et la chanson?
Je continue, je serai le 20 décembre au théâtre d'Ivry. Voilà.
J'ai le sentiment, vous êtes généralement prudente quand on vous parlait des projets, vous avez c'est une forme de superstition où il y a eu trop de projets qui ont été initiés et finalement qui n'ont pas vu le jour dans votre expérience, on parlait d'Astérix tout à l'heure.
Non, il y en a eu très peu, il y a d'autres projets qui n'ont pas vu le jour, où j'étais comédienne ou je sais pas quoi, ou machin, mais c'est parce que tant que c'est pas fait, quoi.
Et l'envie, elle est de faire quoi? D'envie profonde, de tout faire, de continuer aussi bien d'écrire que de jouer au cinéma, au théâtre, de chanter, c'est-à-dire de rien s'interdire.
Ah mais absolument.
Et de jouer pour d'autres réalisateurs comme pour soi et sa famille. Très bien. Gilles, producteur peut mener de front plusieurs productions. Et pas qu'une, et pas oui, que celle qu'il mieux, réalise.
Oui, oui. Vaut mieux, oui. Donc, la question.
Que, que, suite, que produit Epithète
ouais. Non, ouais, le prochain film, bah, il y a eu, parce qu'il y a une autre société, il y a eu Sherazade qui est sorti là, début septembre, qui est un premier film de Jean-Bernard Malin qui était. Voilà, que nous avons produit avec une société qui s'appelle GECO et qui, et puis il y a le prochain film qui sort le 6 mars qui s'appelle Exfiltré de, d'Emmanuel Hamon et qui raconte une sorte de thriller politique. Oui, mais et Swann Arlo et qui raconte une histoire complètement vraie qui en 2015, une jeune femme dingue qui est partie à Raqqa avec son. En enlevant son enfant à son mari en même temps, puis qui s'est rendu compte que là-bas, le prospectus était moins sexy que ce qu'elle pensait, et qu'appelle au secours. Et elle, et elle a été sauvée par des jeunes Français qui, pourtant, étaient des militants actifs de l'armée syrienne libre, et qui ont donc aidé à sauver et à réveiller une petite cellule dormante à Raqqa qui a exfiltrer cette jeune femme. Et, voilà. Et l'histoire est totalement vraie. Et voilà, donc c'est un premier film qui sort le 6 mars. Voilà. Vous, exfiltré.
Vous pensez, Agnès Jaoui, que le cinéma peut modifier soit les lois, soit notre vue du monde ? Est-ce qu'il y a un cinéma, entre guillemets, engagé ? Évidemment qu'il y a un cinéma engagé, mais est-ce que ça peut changer les choses ?
Je constate que le cinéma, en tout cas, est plutôt de gauche, enfin, en tout cas, progressiste, le cinéma, dans le monde entier. Il y a eu le Juif Sus, qui n'était pas tout à fait... et puis quelques films de Clint Eastwood, peut-être, mais vraiment...
Merci.
mais autrement, il est très progressiste, et la société, aujourd'hui, paraît l'être un peu moins. Donc, on peut... demander voilà jusqu'où enfin on les films influencent ou éveillent les consciences. Il y a une phrase de Sacha Guitry qui dit je ne sache pas que la personne qui vient de voir l'avare soit plus généreuse avec la femme du vestiaire en sortant du spectacle. Néanmoins je pense quand même que ça peut oui ça moi il y a des films qui ont changé ma vie, il y a des livres qui ont changé ma vie et donc, même si ça modifie une personne ou deux, c'est toujours ça de prix.
Alors justement, quand on parle de cinéma avec du fond, avec des messages, avec des idées, c'est peut-être les films les plus difficiles à monter, à produire, à de convaincre que ce soit les chaînes, les partenaires financiers d'investir. Ils veulent du spectacle et du roman.
Ouais, nous, depuis 10 ans, ils veulent de la comédie et de la comédie. Alors, on peut essayer de prendre un sujet sérieux, qui est le sujet de l'engagement. Et tac, on le transforme en comédie. Si on a un lecteur un peu abruti, on peut peut-être l'enfumer. Voilà. Non, c'est pas. Non,
c'est ce qui est arrivé avec les bonnes intentions.
Plaisir. Hein, les téco-producteurs vont être vachement contents. Non,
je viens en disant ça. C'est pas vrai. C'est un film qui a trouvé d'ailleurs chez France Télévisions plutôt un vrai soutien. Il y a des bons lecteurs. Mais pas que.
Non, mais ça pose la question de qui va au cinéma. Enfin, vous disiez, Agnès Jaoui, voilà, le cinéma est plutôt progressiste. Qui fait le cinéma? C'est aussi la question qu'il faut se poser. Qui va voir les films? Et si la comédie est un vecteur qui permet à un certain public d'aller voir ce film avec ce propos-là, c'est gagné.
Non, mais c'est la démarche. C'est la démarche. C'est vrai que de ce même sujet, on peut faire un film social. Sûrement très émouvant, peut-être un petit peu, peu ennuyeux, parce que si vous prenez.
Cette comédie va toucher peut-être plus de monde aussi, grâce au prisme de la comédie.
C'est le but du jeu. Ouais. Mais c'est vrai que si vous racontez juste quelqu'un qui fait du bien pendant une heure et demie, dans des univers un peu lourds.
Ça peut être un doc, à la limite.
Ça peut être un doc, mais on peut aussi faire 3000 entrées, quoi. Donc l'objectif c'est de toucher plus large, mais j'espère de toucher le cœur des gens.
On vous le souhaite de tout cœur, ouais. Les bonnes intentions le 21 novembre au cinéma. Des excuses à présenter, Daniel ?
Évidemment, et désolé pour tous les automobilistes, les piétons, les chiens, les pigeons qui un jour croiseront la mort en même temps que la voiture d'Agnès Jaoui. Oh la mort, on en fait des caisses, mais attention, c'est la bagnole d'Agnès Jaoui quand même, merde. Désolé justement pour Agnès Jaoui j'ai appris à la pause que Gilles Legrand avait un nouveau projet pour vous, Agnès, qui n'est pas un film, mais c'est le prochain Paris-Dakar. En même temps, ça peut finir rire en comédie, hein, si c'est vous qui êtes au volant. Hein, et désolé pour Mère Teresa, l'abbé Pierre qui ont été insultés en direct par la terrible Agnès Jaoui. En même temps, c'est rien par rapport à ce qu'elle nous a dit à la pause sur Coluche, les enfoirés, les de la paix et même Petit Ours Brun. Agnès, vous êtes un monstre. Un monstre, et peut-être plus que ça.
Hey. Merci Daniel Morin, merci Agnès Jaoui, merci Gilles Legrand. Et bonne attention, le 21 novembre. Demain, nous serons là avec Dave pour parler des recettes et de sa vie. L'idée originale de raconter sa vie à travers des recettes de cuisine aussi et tout ce qu'il a pu vivre, Dave, et plein de choses. Et je pense qu'on va aussi s'amuser avec lui.